Explorons donc ce premier continent, celui de l'aptonomie. Dominique Descamps, c'est vrai que c'est un continent, c'est très vaste, et puis d'abord on ne sait pas trop ce que c'est.
Oui, je crois que l'aptonomie est finalement peu connue. Elle est surtout connue par tout ce qui concerne l'approche périnatale, c'est-à-dire ce qui concerne la grossesse, la naissance et l'accompagnement des bébés, donc des couples avec leur enfant pendant la grossesse et après à la naissance du bébé. Et son aspect, par exemple, psychothérapique, ce que je pratique, est très peu connu. Mais il y a de nombreuses applications médicales et c'est ce qu'on va avoir à l'occasion de ce que nous allons explorer ensemble. Ce qui me paraît important, c'est peut-être justement de définir un petit peu d'où elle vient et comment elle se place dans le...
Voilà, alors on dit que c'est une science de l'affectivité, ce qui étonne un petit peu pour nos autres rationnels et logiques. Et
oui, alors peut-être qu'il faudrait
déjà... Enfant de René Descartes.
Oui, exactement. Alors il faudrait peut-être déjà définir l'aptonomie dans son étymologie. L'aptonomie est un mot créé par Frans Veldman, son fondateur, qui est originaire de Nimègue aux Pays-Bas, et qui est quelqu'un qui, à la suite de la dernière guerre et des expériences qu'il a traversées, expériences qui ont été vraiment fondatrices pour lui, d'une découverte qu'il n'a eu de cesse, je pense, toute sa vie. Il vit encore dans les Pyrénées, dans une petite ville qui s'appelle, un petit village qui s'appelle Homs, près de Céré, dans la région de Perpignan. Et donc, il n'a eu de cesse, tout au long de sa vie, d'essayer de mettre en théorie, d'abord d'explorer ce qu'on appelle la phénoménalité aptonomique, et ensuite d'essayer de la théoriser et d'en rendre compte, à partir de cette expérience fondatrice des camps de concentration.
Alors, c'est fondé sur deux termes, aptonomie,
voilà,
aptonomie, le toucher.
Voilà, il y a haptein, qui est
la sensation.
Voilà, et puis nomos, qui veut dire science. Mais je vais dire tout de suite un certain nombre de choses pour mettre... Clairement, c'est bien que votre émission soit sur le tact et le contact, parce qu'on ne parlera plus de toucher entre nous. Il s'agit ici de parler du tact avec toutes les connotations psychologiques et affectives qu'apporte le tact, avec tout son sens de discrétion, de finesse, de sensibilité et relationnel. Et puis, je dirais, l'autre chose aussi, c'est qu'on va aussi être beaucoup amené à parler de corporalité et pas de corps. Et je définirai un petit peu pourquoi. Mais on va aussi éliminer un terme très vite, c'est celui de psychosomatique. Oui. On est toujours en relation avec une personne dans sa globalité, dans son entièreté, que ce soit lorsqu'elle est dans sa psyché, dans son affectivité ou dans son corps en relation avec autrui, c'est-à-dire dans sa corporalité de rencontre.
Donc, cela veut dire, gros, je touche, c'est-à-dire je réunis, j'établis une relation, et tactilement, par un contact.
Voilà, tactilement, parce que le contact tactile est fondateur, et c'est, je crois, l'importance de la découverte qu'a faite Frans Veldman, c'est que dans la peau, et avec et c'est très important, embryonnairement, le système cutané, le système respiratoire et le système neurologique sont issus du même feuillet embryonnaire. Mmh. Et tout au long de la vie, quand un des secteurs est touché, l'autre réagit. Une émotion peut nous faire rougir, elle peut aussi nous faire associer des choses avec notre psyché, et inversement, avec le contact tactile qui va être établi, un certain nombre de choses peuvent se passer au niveau aussi bien de la psyché, et on le verra, parce que à partir du moment où un certain nombre de perceptions tactiles sont vécues, eh bien elles entraînent des modifications au niveau de la conscience, évidemment, et des perceptions.
Alors quelquefois, Dominique Descamps, il y a des formules que l'on peut lire comme ça dans les articles que vous écrivez, et qui font un peu question, qui surprennent. On dit je vais toucher l'autre, je vais être en contact, en relation avec lui pour le guérir, pour confirmer l'autre dans son existence.
Oui.
Alors on a l'impression d'une formule quasi philosophique.
Oui, c'est vrai.
Oui, c'est vrai que le fondement c'est la phénoménologie.
Si vous voulez, une grande partie de la théorisation qu'a faite Frans Veldman s'est établie, bien entendu, entre Platon, Aristote, Spinoza beaucoup, mais aussi toute la phénoménologie qui a servi de support, parce que l'aptonomie est une science empirique. Et la phénoménalité aptonomique est par définition l'expérience. Et quand on théorise ou quand on vit quelque chose avec l'autre, c'est toujours à partir de l'expérience partagée, vécue, qu'à ce moment-là, quelque chose peut être ou confirmé par la personne, ou refusé, c'est son droit le plus strict, mais à partir de là seulement, cette expérience permet, dans la relation, d'établir cette réciprocité qui est essentielle. Alors, je voudrais dire à quel point c'est important, parce que non seulement c'est une science empirique, mais c'est aussi, je dirais, une science du complexe. Parce que c'est ça que que je voudrais arriver à dire, c'est qu'elle est interdisciplinaire, au sens où elle va avoir recours à l'anatomie, à la physiologie. Il y a toute une théorisation de la physiologie du tonus neuromusculaire qui est essentielle. Elle a recours à la psychologie. Elle a aussi recours à des médiations qui peuvent être artistiques.
Vous
donc,
êtes médecin.
Moi, je suis psychiatre de formation et psychanalyste au départ. Oui. Et puis, à travers le travail que j'ai fait avec le handicap infantile, je me suis trouvée à rencontrer l'autonomie dans le travail avec les petits enfants.
Donc, un fondement scientifique.
Il y a un fondement scientifique, donc interdisciplinaire, philosophique. Et il y a, je dirais, quelque chose qui a à voir avec la pensée du complexe. Parce que c'est ça qui est très important. C'est qu'on n'est pas du tout dans une causalité qui serait une causalité de la physique classique. On serait plutôt dans le registre du quantique, c'est-à-dire qu'un dans la théorie du chaos et les fractales, c'est-à-dire qu'un minimum, une toute petite influence à un endroit va faire que ce ne sera pas prévisible mais prédictible. C'est-à-dire que on sait très bien que dans une certaine intention de l'attention à l'autre, il va se passer un certain nombre de réactions chez l'autre qui sont éminemment prédictibles. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de liberté, ni d'inconnu, ni de découverte à faire dans la relation à autrui, mais que par le développement d'une certaine intuition qui est essentielle dans ce travail et qui est liée au développement de ce qu'on appelle la psys, eh bien, il va y avoir la possibilité de l'exercer avec l'autre.
Dominique Descamps, on a vu l'appel à l'étymologie pour comprendre un peu, c'est-à-dire je vais essayer d'entrer en contact psychotactile avec l'autre pour le guérir, pour le confirmer dans son existence, comme s'il devait retrouver finalement une enveloppe, une limite, une forme quelquefois. Le but de l'autonomie, c'est un but de guérison, puisqu'on le fait forcément.
Non, pas forcément. Ce que je veux dire, c'est que toute l'autonomie est basée, à l'inverse de, par exemple, de la psychanalyse qui est partie de la psychopathologie, des hystériques, l'autonomie part du développement de la personne saine. C'est-à-dire, elle s'intéresse et elle a théorisé tout ce qui est nécessaire pour qu'une communication affective interhumaine puisse se développer le plus harmonieusement possible, depuis la conception dans le giron jusqu'à l'accompagnement du mourant. Et donc, l'important, c'est de donner les offres. Alors, le mot confirmation, vous l'avez employé, c'est-à-dire que quand un être humain vient au monde, on peut simplement lui donner, j'appelle ça les familles passe-moi le sel, c'est-à-dire on peut dire fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça, et on est dans un registre qui est un registre fonctionnel. Et dès qu'on entre dans le registre de l'affectif, ça veut dire qu'on reconnaît le bon que l'autre. Un enfant qui regarde sa mère qui lui sourit se sent bon dans son regard, et elle, par son sourire en retour, est confirmée par ce sourire qui lui dit « oui, tu es ma maman qui est bonne pour moi ». Alors, la confirmation affective, elle est le propre de ce contact, qui est un contact très spécifique qu'on appelle en latin « pervium » parce que Frans Wellman est d'origine néerlandaise et que toute la terminologie est extrêmement reliée au grec et au latin. Mais donc, c'est une nomenclature internationale. Mais pourquoi le contact psychotactile, affectivo-confirmant ? Parce que ce contact est un contact avec prudence, respect et je dirais prudence, respect et un amour dit contenu. Il donne à l'autre le sentiment effectivement du bon qu'il est. Et le but, vous me demandiez quel était le but, eh bien le but c'est d'accompagner. C'est vraiment un accompagnement, une guidance.
Alors on accompagne un enfant, une personne...
Un enfant, on accompagne une personne handicapée et on peut être amené à accompagner aussi... Quelqu'un qui fait un deuil, on peut être amené à accompagner...
Toutes les formes de souffrance.
Alors toutes les formes de souffrance, et je dirais qu'il y a différentes applications très spécifiques, je peux peut-être les dire déjà. Oui. Donc j'ai déjà parlé de tout ce qui concerne la grossesse, donc à la fois l'accompagnement très spécifique des parents et de leur bébé, mais ça peut être aussi ce qui concerne les sages-femmes et les accoucheurs, c'est-à-dire l'apto-obstétrique proprement dite. Alors, ça veut dire, si vous voulez, que toujours on va retrouver dans cette science empirique, qui est une science à divers niveaux, on a un savoir technique, quand on est un accoucheur, on en a un, quand on est un psychiatre, on en a un, mais ce savoir technique, à l'intérieur de ça, ce travail est une... met en jeu les corporalités de rencontre, c'est-à-dire que c'est une approche affective, et à l'inverse de toute la démarche actuelle qui vise à l'efficacité et au rendement, c'est parce que nous sommes dans cette démarche affective que l'efficacité va être en réalité maximale. Et on gagne beaucoup de temps en mettant une main apaisante sur le giron d'une femme qui même n'a jamais rencontré l'autonomie, en lui permettant de se sentir en sécurité dans un contact confirmant de l'autre. Et il y a de nombreuses dystocies dynamiques qui, à ce moment-là, cessent complètement. Alors, donc, on peut accompagner les couples. Il y a une autre application qui s'appelle l'apto rhumatocinésie, qui est indiquée pour les médecins, tout ce qui est aussi les rhumatologues ou les médecins qui seraient médecins physiothérapeutes, c'est-à-dire l'accompagnement des handicaps, quels qu'ils soient, que ce soit le handicap moteur, les handicaps qui sont liés à des maladies neurologiques, c'est-à-dire aussi bien l'infirmité motrice cérébrale qu'une maladie de Parkinson, par exemple. C'est-à-dire, le but, toujours, c'est de permettre à l'autre de vivre une sécurité et un sentiment de complétude. Parce qu'on peut avoir un handicap et se vivre quand même entier et complet. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on n'est pas identifié au handicap que l'on porte. On est une personne avec ses affections, son sentiment et ses émotions et sa capacité de rencontrer l'autre entier et sain, même si on a deux jambes qui ne marchent pas. C'est beaucoup plus compliqué, mais c'est possible. L'autre application qui existe aussi s'appelle l'aptopsychagogie. C'est l'accompagnement des enfants qui présentent des troubles du développement. C'est une forme de thérapie d'enfant, c'est-à-dire elle a une visée éducative aussi. Alors, il y a également l'aptopsychothérapie et l'aptoanalyse, qui est une forme plus approfondie, qui est l'accompagnement des différentes formes de pathologie de l'ordre du psychique, je dirais. Alors, qui concerne non seulement ce que vous avez décrit au départ, mais qui concerne aussi ce qu'on appelle les socioses ou névroses de frustration, c'est-à-dire que dans la société où nous vivons, où cette effectivité se place depuis, dès la manière dont on sépare indûment mère et enfant, quelquefois pour des raisons de sécurité médicale excessive, à la naissance.
La couveuse,
par exemple, elle peut être indispensable, elle ne l'est pas toujours systématiquement. Mais c'est plutôt, si vous voulez, le manque à dire ce qui se passe entre le bébé et ses parents absents ou sa mère absente qui sont pathogènes lorsqu'on ne peut pas faire autrement qu'avoir un geste médical ou chirurgical au cours d'une naissance. Donc il y a cet accompagnement des différentes formes de socioses ou névroses dites de frustration, c'est-à-dire quand des êtres se sont développés, ils ont reçu l'affermissement de leur existence. Comme dit Grindolto, ils ont fait pipi, caca, dodo, ils ont grandi, leur corps a grandi, mais à l'intérieur, ils sont restés enfants. C'est-à-dire que leur affectivité réagit quand ils deviennent parents, comme un enfant de 12 ans et pas comme un adulte en maturation psychique. Et la dernière application, il y en a deux autres dont je voudrais parler, l'accompagnement des mourants. Alors, c'est l'accompagnement, comme on le dit pour le bébé, c'est-à-dire jusqu'au dernier moment de sa vie, un être peut pleinement accomplir la maturation. Il y a des êtres qui n'auront pas pu grandir et qui, à l'approche de la mort, vont pouvoir passer toutes les étapes qui sont nécessaires pour finalement mûrir et accepter leur destin de terminer là l'existence. Alors, l'autre chose qui est, c'est la première formation qu'on fait en France, mais elle a été commandée il y a une trentaine d'années par le ministère de la Santé aux Pays-Bas, c'est ce qu'on appelle la kinésionomie clinique, la formation de moniteurs, qui sont des gens qui peuvent à l'hôpital aider les soignants et les aides-soignants, les infirmiers, à découvrir comment approcher dans une certaine présence le malade pour que toute la science kinésiologique, celle des leviers et de la manutention des malades, en réalité ne soit qu'au service de la dignité, du bien-être et du respect de la personne âgée ou souffrante ou handicapée qui rencontre à ce moment-là. Si vous voulez, ce que je voudrais dire dans tout cela, c'est que l'essentiel de toutes ces applications, c'est qu'elles sont au cœur de l'application d'une présence. C'est-à-dire tous les gestes techniques qui sont ceux d'un savoir médical particulier ne sont en réalité dans ce qui est présenté à la personne que le fruit de la présence l'attention et de l'offre d'affectivité de la personne qui les approche. Alors cette offre est plus ou moins présente maximalement, mais c'est au fond c'est pouvoir être au plus proche de la personne dans un respect de la juste distance.
C'est comme s'il fallait réinvestir autrement son savoir.
Complètement. Hein? Complètement.
Alors, le réinvestir autrement, cela veut dire qu'on a des modalités très précises du contact. On ne touche pas les gens n'importe comment, j'imagine.
Voilà, mais dans les premiers stages, exactement. Dans les premiers stages, on découvre comment on touche les autres. C'est-à-dire, les yeux bandés, on se met à toucher 6 personnes.
Est-ce qu'on a toujours envie de le faire?
Alors, non.
Parce que les gens qui viennent là ont toujours envie.
Les gens qui viennent là ont en principe une certaine connaissance de ce pourquoi ils viennent, mais ils rencontrent
des appréhensions.
Absolument. Et puis, il y a des gens qui viennent en toute bonne foi en croyant faire très bien et qui découvrent avec quelle indifférence ou quelle possessivité ils s'emparent du corps de l'autre, enfin, en tout cas ne sont qu'avec un corps et pas dans une corporalité de rencontre, c'est-à-dire avec le respect, et c'est tout un apprentissage. Alors, en fait, quand je dis c'est un apprentissage, bien sûr qu'il y a des modalités spécifiques d'approche technique à travers les différentes spécialités de l'aptonomie, mais le plus important, c'est le développement de cette abscisse dont je parlais, c'est-à-dire de ce toucher primitif qui est à l'origine de la sensibilité affective de l'être humain.
L'intelligence primitive.
Cette intelligence primitive qui est un discernement très archaïque pour la différence entre le bon vital et le mal vital. Au fur et à mesure que cette croissance se fait, et elle se fait dans une maturation, à condition que les offres de confirmation affective aient eu lieu. Et à partir du moment où ce développement se fait, d'abord il y a une certaine libido qui se développe, il y a une intentionnalité, c'est-à-dire un désir d'accomplir son être qui a lieu, et surtout ce que ça développe, qui manque considérablement, je trouve, à notre époque, c'est qu'il y a une écoute de quelque chose qui est une écoute du fort intérieur, c'est un discernement intérieur qui s'aiguise au fil des expériences de représentation que la vie propose au jeune enfant, et qui à ce moment-là font que, indépendamment de facteurs qui peuvent être éducatifs, il peut écouter ce que son cœur lui dit, c'est-à-dire ce qu'il sent qui est juste et bon dans la rencontre avec l'autre. Et cette part-là est essentielle dans le travail thérapique en général et psychothérapique en particulier.
Mais alors, donc, il y a des modalités. On ne touche pas les autres n'importe comment. On apprend à les toucher, j'imagine, alors, en aptonomie. Hein, il y a une invitation. Il y a l'aptomimique qui fait qu'on regarde l'autre et la manière dont il réagit. Il y a cette étude du souffle aussi qui permet de savoir où il en est.
Oui. Alors, si vous voulez, ce qui est très important, en fonction de ce que je disais des trois feuillets embryonnaires reliés comme ça à l'origine de la vie humaine, il est dans toute rencontre aptonomique, dans la mesure où celui qu'on appelle l'approchant, l'autre est l'approché. Dans la mesure où celui qui est l'approchant ou celle se trouve les conditions minimales requises, c'est qu'il soit lui-même dans ce qu'on a appelé cette sécurité de base, c'est-à-dire ce sentiment de complétude qui peut être vécu. Je développerai un tout petit peu ce qu'est la base, parce que c'est important. Pas la base en tant que telle, mais le concept qui est utilisé communément et qui correspond à des choses très précises. Donc c'est dans ce sentiment vécu par l'approchant, et on peut espérer pleinement épanoui. C'est pour ça que l'aptonomie, c'est une science, mais c'est surtout un art de vivre, et au fur et à mesure c'est l'intégration vécue d'un certain nombre de facultés qui font qu'on va pouvoir les exercer dans la rencontre avec autrui, souffrant ou pas souffrant, mais dans une rencontre qui sera une rencontre animée, c'est-à-dire c'est la rencontre d'âme à âme qui n'aura pas besoin de s'exprimer de façon très expressive si on a à mobiliser un malade, mais à partir du moment où cette présence-là est chez l'approchant, elle permet qu'il y ait ce respect doux et tranquille face à l'autre, qui permet que l'autre se sente tout de suite en sécurité et respecté. Si vous voulez, la chose importante, c'est qu'à ce moment-là, le corps sexuel, le corps qui tout de suite pourrait amener à vivre toucher, c'est coucher, comme disent certaines personnes, eh bien pas du tout. À ce moment-là, l'autre se sent tout à fait respecté dans son être, et je pense que c'est ça qu'il faut dire. On ne touche pas, on touche bien sûr un homme et une femme dans ce qu'il a de différent, mais on touche surtout la personne, c'est-à-dire qu'en fait on rencontre une personne, et dans les progrès du toucher, de ce contact psychotactile, le plus important sans doute, c'est que se développant cette forme particulière de présence, elle émane cette forme de contact.
Et qu'est-ce que vous faites de l'histoire individuelle? Parce qu'il y a une mémoire du vécu.
Bien sûr.
J'imagine, par exemple, les enfants battus, on doit avoir une difficulté énorme à leur faire accepter ce contact, cette...
Eh bien, je vais vous dire une chose très intéressante, c'est que, justement...
Parce que le corps se souvient des coups qu'il a reçus.
Alors, ce que je veux dire, c'est qu'au niveau, par exemple, dans l'aptopsychothérapie, on a 3 ou 4 séances qui sont les séances de découverte, qui permettent à la personne de découvrir ce qui va se passer si elle envisage de faire une thérapie sur ce mode. On va faire appel à son expérience de la situation, à la confirmation de ce qu'elle éprouve, à ce qu'elle puisse se rendre compte qu'elle acquiert, qu'elle dispose d'un certain nombre de facultés qu'elle pourra. Alors, avec les enfants, c'est différent. Avec un enfant, on est directement dans une relation avec l'enfant qui est là. Et un enfant, il sent tout de suite dans votre présence si vous êtes là pour lui ou pas. Si vous êtes là pour lui... Et si vous êtes, vous, approchant dans ce respect et cette attention à ce qu'il vit, eh bien, vous saurez très exactement quand vous pouvez l'approcher ou pas. Et s'il refuse le contact, quelquefois il le refuse parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer. Et il faut aussi dire que quand on a souffert beaucoup dans sa peau et de la souffrance physique que l'autre vous a infligée, c'est très difficile et que... On a distordu votre discernement initial en vous faisant vivre que ce qui est juste, c'est d'être battu, d'être maltraité et de ne vivre que le mauvais vital, donc le mauvais pour l'âme. Eh bien, il y a tout un temps qui est presque un temps de combat, je dirais, pour que se découvre petit à petit ce qui est bon n'est pas mal pour ma tête. Ce que je vis comme mal, puisque je ne l'ai jamais eu, c'est très dangereux. Eh bien, ça devient quelque chose, oui, je peux le vivre, je peux l'accepter. et je peux enfin vivre quelque chose qui est bon pour moi. Et alors au début, ça peut être difficile, mais ça se conquiert, je dirais, et puis surtout ça s'apprivoise. C'est un peu comme... Et avec les enfants hyperactifs, c'est ce qui se vit.
Et avec les adultes ?
Alors avec les adultes, ça dépend des personnes. Mmh. Je dirais qu'il y a des personnes qui vivent ce sentiment qu'elles sont... Il y a une jolie pièce qui passe en ce moment qui s'appelle Résonance et qui passe à l'atelier. Et il y a un monsieur qui dit, moi j'ai le sentiment, je suis pas fini. Mmh. Et il montre ses doigts. Eh bien, il y a des gens qui se sentent pas finis. Ils savent très confusément d'un savoir non conscient qu'il y a quelque chose qui leur manque. Ils ne savent pas quoi, c'est indéterminé, mais ils sentent qu'ils ne sont pas à la bonne place, qu'ils font un métier, bon, il faut bien faire un métier, qu'avec les gens, ils ne vivent pas des choses bonnes, et qu'ils ne vivent pas l'essentiel qu'ils savent quelque part d'un savoir insu, que c'est le plaisir et la jouissance du bon qui sont à la source du courage de vivre. Et que si on n'a pas ce bon, on ne peut pas développer ce qu'on est et on ne peut pas rencontrer les autres. D'abord, on ne peut pas s'aimer soi-même et on ne peut pas rencontrer les autres. Et ce sont des gens qui disent, je ne sais pas trop ce que j'aime, je suis un peu indécis et surtout, je manque profondément de confiance en moi. Et ces personnes-là, tout de suite, dès la première séance, sentent dans la sécurité qu'elles découvrent qu'elles peuvent faire dans la rencontre avec l'autre, c'est exactement ça que je cherchais. Alors avec d'autres personnes qui ont des mémoires, puisqu'on parle de mémoire, qui ont des mémoires beaucoup plus, c'est ça, où leur histoire s'inscrit dans des choses beaucoup plus douloureuses objectivement, les premières séances peuvent être extrêmement émotionnelles et ramener tout de suite ce qu'on appelle des engrammes, et qui sont effectivement des engrammes négatifs, c'est-à-dire en tout cas des souffrances. Alors je dirais qu'il y a deux sortes de pleurs. C'est très frappant. Il y a les pleurs qui sont les pleurs de la remémoration immédiate de quelque chose d'extrêmement douloureux, et il y a le pleur silencieux et tranquille de « pourquoi n'ai-je pas eu ça avant ?»
N'ai-je pas eu ça, et ça renvoie au geste, à ce contact.
À cette présence de l'autre, qui ne demande rien, mais qui est simplement là, et la personne se dit « mais c'est ça que je cherchais, et je n'ai pas eu ».
Et à cette sécurité de base.
Et cette sécurité de base. Alors, la base en aptonomie, c'est si vous voulez, le fait que pour qu'une personne soit dans un sentiment de complétude, il faut qu'elle vive quelque chose qui est une harmonie entre les deux diaphragmes, on pourrait dire, c'est-à-dire le diaphragme respiratoire, ce qu'on sent tous quand on a la boule à l'estomac, et qu'on est angoissé, c'est que le diaphragme est serré, on respire avec le haut du corps, et puis le diaphragme pelvien, c'est-à-dire toute cette harmonisation de multiples sphères qu'a décrite Franz Wellman, qui sont des sphères qui doivent être en alignement avec l'axe du diaphragme, quand on vit son sentiment de là-bas, c'est-à-dire tout ce vécu du périnée qui est un vécu tranquille, détendu, où il y a une meilleure circulation sanguine, où il y a à ce moment-là un sentiment d'être à son aise, et où évidemment il n'y a pas tous ces troubles de colite, de constipation, toutes ces pathologies du stress, qui sont ces acidités gastriques, c'est-à-dire toute cette pathologie du stress qui est la conséquence du sentiment d'incomplétude vécue.
Qu'est-ce qui fait, Dominique Descamps, qu'une analyste, une psychanalyste, passe à l'aptonomie ? Parce que on est des êtres parlants, des êtres de parole. Or là, il n'y a plus de langage.
Hein. Ah, pas du tout. Pas du tout. Au contraire, je dirais que d'être dans cette présence sécurisante, en riant, je dis, ça fait taire les bavards et ça fait parler les muets. C'est une métaphore un peu lapidaire et hardie, mais c'est une façon de dire que lorsque vous êtes dans cette vraie rencontre avec quelqu'un qui a cette réciprocité du bon vécu et qu'on est dans une mutualité comme ça, tranquille et respirante, et qu'on peut le vivre, alors la thérapie, ça va être d'arriver là, justement, et de permettre à l'autre d'aller sur son chemin. Eh bien, quand on est dans cette mutualité tranquille, il y a bien sûr des gens qui peuvent être amenés à vivre toute une séance d'un silence très profond, très tranquille, et les gens qui vivent la pathologie du vide, tout d'un coup découvrent qu'on peut vivre le bon du rien, mais un rien partagé avec l'autre, si vous voulez, le rien du lézard au soleil, au fond, on pourrait dire. C'est-à-dire quelque chose d'être dans le bon de l'être qui enfin se pose. Et puis, je dirais qu'à certains moments, le fait d'être dans cette attention présente à l'autre fait qu'il y a certaines paroles qui sont essentielles à dire. Et à ce moment-là, c'est pas une parole pour dire, c'est une parole parlante, c'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'elle vient de la base, elle vient de ce fort intérieur. L'autre n'a pas forcément dit des éléments d'anamnèse, mais c'est comme s'il surgissait de son histoire, oui, personnelle. Mais il y a des choses qui, à ce moment-là, surgissent chez l'approchant, dont je parlais tout à l'heure, qui savent, qui sentent, j'ai envie de lui dire ça. On ne pense pas, il faut lui dire ça. Ça vient de l'intérieur du cœur, je dirais, de dire à ce moment-là quelque chose à l'autre Et c'est ça une parole parlante qui va pouvoir l'aider à son tour à dire quelque chose de vrai et de profond. D'ailleurs, c'est très net, à ce moment-là, le timbre de la voix change, le rythme de la parole change. Dès que quelqu'un sent la présence, si c'est quelqu'un qui est speed et qui parle ta-ta-ta-ta-ta, ça se calme, ça se pose dans un tréfonds comme ça, très tranquille, et ça peut se parler. Alors, il y a des gens qui mettent un certain temps avant d'arriver là. Mm-hmm. Et il y en a d'autres, c'est assez instantané. Donc, on parle, et c'est même très important à certains moments de parler. Mais vous voyez, on n'ira pas chercher tout le temps le pourquoi des choses. Ça n'a pas d'importance, d'une certaine façon.
C'est très différent de la psychanalyse.
Alors, c'est très différent, je dirais, pour plusieurs raisons.
Vous dites que la psychanalyse, c'est comme une carte qui se fait après, alors que là, c'est chemin faisant, l'autonomie.
Oui, c'est-à-dire, je parlais du développement des enfants, et je pense qu'effectivement, pour dire les choses, si vous voulez, c'est vraiment, il y a toute une compréhension de ça qui est possible. Si vous partez, l'analyse, elle est partie des hystériques et de la psychopathologie, et Freud a découvert, bon, il y a moyen, il y a du sens là-dedans. Mmh. Alors, donc, on part, et il a découvert l'inconscient. Pour l'autonomie, c'est l'être présent au monde dans une aperception, ça vient du mot apsis, dans une aperception qui le fait présent au-delà de soi. Et il est là pour l'autre, et d'une certaine façon, donc, ce qui va être visé, c'est qu'il puisse développer un moi conscient. Parce que si vous êtes présent au monde de cette manière, vos perceptions sont conscientes, les sensorialités que vous vivez se réunissent à un endroit bien solide en vous, et ce que vous développez à ce moment-là, c'est une certaine conscience de ce qui se passe. Bien sûr que toutes sortes de perceptions sont infraconscientes, mais l'essentiel de la relation et de l'attention à l'autre font que vous développez quelque chose qui est de l'ordre. Alors ça n'a rien à voir, parce que d'un côté on va aller à la pêche de l'histoire du sujet, et on sait bien maintenant avec les théories de la mémoire et d'Edelman et compagnie que d'une certaine façon la mémoire est en remodelage constant. Et ce qui est très important, je trouve, dans l'autonomie, bien sûr que cette évocation des mémoires du passé va se faire, mais en même temps on construit le terreau du présent dans ce contact soutenant que donne le contact affectivo-confirmant. Et évidemment qu'à ce moment-là, ce que l'autre va vivre, c'est qu'il peut, ici, maintenant, à partir de ce qu'il sent progressivement, de cette force qui croît en lui, eh bien, il va pouvoir, à partir de là, à partir de cette horreur qu'il aura peut-être vécue dans son enfance, à partir de ce schéma douloureux qui aura été ce sur quoi il s'est structuré, eh bien, il va pouvoir vivre maintenant le bon de ce qu'il est en rencontre avec les autres et aller partager sa vie.
Alors Dominique Descamps, on est bien d'accord, l'autonomie, ce n'est pas le yoga, ce n'est pas la sophrologie, ce n'est pas une thérapie corporelle.
Ah, ça n'a rien à voir. je peux dire pourquoi. C'est-à-dire, de par le fait de ce que je viens de dire par rapport à l'analyse...
C'est fondé sur la philosophie, sur la phénoménologie.
Oui. Alors, ouais. c'est pas... Ça, le yoga, la sophrologie, la sophrologie fait appel à l'imaginaire. Le yoga fait appel à quelque chose qui est beaucoup plus centripète. On pourrait dire que c'est totalement incompatible. Si au cours d'un accompagnement périnatal, une maman se dit, il faut que je pense à la plage avec les cocotiers, je me détends, etc. Elle n'est pas avec son bébé, elle est dans son imaginaire en train de se mettre en détente. Par une régulation corticale, elle va détendre son tonus, mais ça ne sera pas la même souplesse, la même élasticité et la même légèreté que ce qui se passe quand elle contacte son bébé, qu'avec tout son cœur, elle rencontre son bébé dans son giron. Et à ce moment-là, on voit tout de suite, là où vous aviez un cône très tendu avec l'obus du nombril qui pointe, vous voyez tout à coup quelque chose qui s'étale, qui s'élève, et le bébé qui trépignait, qui se met beaucoup plus au large et beaucoup plus tranquille, et ça a des effets effectivement sur la naissance, sur l'accouchement. Alors ça n'a rien à voir.
Cette histoire qui m'a frappée, que vous racontez, je pense de cette femme qui avait eu deux avortements spontanés en fin de grossesse et qui un jour, comme ça, vous appelle en urgence parce qu'elle ne sent plus le bébé qu'elle est en train d'attendre.
Non, ça c'est pas moi, c'était Catherine de Tetelitsch et qui savait que dans sa propre histoire il y avait eu, donc c'était au cours du 7e mois que ça s'était passé, et c'est vrai qu'à ce moment-là le fait de pouvoir rencontrer ici maintenant cette mère et ce père avec ce bébé et tout de suite de l'appeler et de faire sentir à la mère, oui, son bébé répond à son invitation, et oui, il est là, et oui, tout de suite, il y a quelque chose qui est psychothérapique dans l'immédiat. C'est à la fois une perception, une sensation, et surtout, c'est de la communication retrouvée. Je voudrais dire que vraiment, dans le périnatal, c'est vraiment une culture de la séparation et des retrouvailles. Et on pourrait dire que dans la thérapie, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de pathologies qui sont des pathologies de l'abandon, c'est-à-dire de la méconnaissance connaissance, aussi bien dans la toute petite enfance du bébé qu'ensuite dans le développement ultérieur, cette méconnaissance de ce qui a fait abandon, qui n'est pas forcément l'abandon, je te laisse au coin de la rue et je te laisse comme le petit poussé dans la forêt, mais qui est l'abandon de la non-reconnaissance de l'authenticité vécue à ce moment-là par l'enfant, de ce qui était le plus important pour lui, pour être reconnu dans l'unicité de son être.
Quand on n'a plus peur d'être abandonné, dans le fond, on est grand, quoi.
Oui, on a
construit son narcissisme et on est arrivé à ce...
Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir des pertes que la vie va vous infliger. On en souffrira et on en aura grand peine, mais on ne sera plus dans cette espèce d'agrippement insécure à tout ce qui peut, alors, comme dans bon nombre de couples, comme dans bon nombre d'histoires d'amour, où on s'agrippe à l'autre parce que c'est lui qui vous sert de doudou et qui doit vous accompagner toute la vie. Puis, se met à aimer une autre ou à mourir, c'est l'horreur et on s'écroule. Il y a beaucoup d'histoires.
Et puis on devient une proie facile des manipulations et du transfert.
Absolument, absolument.
Toutes les formes de transfert. Quelles sont les...
Oui. Je voulais juste rajouter une chose, puisque vous parlez de manipulation et de transfert. Ce qu'on voit de très clair dans la thérapie, c'est que plus on avance dans cette capacité d'être au-delà de soi, dans une présence vécue et dans une rencontre avec le monde et les autres, plus l'inflation de cet imaginaire qui était compensatoire... se déballonne comme une peau de chagrin, je dirais. C'est-à-dire, elle devient beaucoup plus petite et elle se délite. Alors, sauf, et je voudrais dire que je pense que pour certaines personnes, sauf si la mémoire du trauma est identitaire et qu'on y tient comme à sa médaille d'ancien combattant. Auquel cas, c'est pas grave, ça restera, mais le reste pourra s'ouvrir et c'est pas important, parce que l'important c'est qu'on arrive à partager, même s'il reste des traces comme le vieux requin blanc qui se sont cisaillés de traces de bagarre à la fin de leur vie.
Au centre de la phénoménalité autonomique, donc l'espace et le mouvement.
Oui. Alors, l'espace, c'est ce que je vous disais à propos du fait que c'est centrifuge. C'est-à-dire qu'au fond, un bébé, dès le giron, déjà un bébé, il vit l'espace, ne serait-ce qu'en transformant sa psychomotricité de bébé qui joue avec son cordon, qui est là en train de faire petit cosmonaute dans son ballon plein d'eau. À partir du moment où il est dans la rencontre avec ses parents, déjà il vit qu'il peut se déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas.
Oui, il entend la voix du père bien
avant. Voilà, il entend bien avant, parce qu'on sent, on entend avec la peau, avant même d'entendre avec les oreilles. Donc il est dans cette possibilité déjà d'explorer un espace qui est un espace de rencontre. Et c'est ça, je crois, qui est passionnant dans ce travail, c'est que d'emblée, l'espace est surdéterminé par du sens de l'affectivité de la rencontre. L'espace à droite, à gauche, en haut, en bas, il n'y a pas de moi pour le dire, mais c'est déjà du « je rencontre cette voix qui est » plus tard la voix de papa, que je vais reconnaître comme voix de mon père, ou ce senti qui est voix de ma mère et toute cette présence enveloppante. L'espace aussi, parce qu'après, dès la naissance, au premier acte de détachement, et ça rejoint ce que nous disions de l'abandon tout à l'heure, pour qu'il puisse y avoir détachement et acquisition d'un narcissisme, on pourrait dire,
mais
secondaire solide,
eh
bien oui, il faut qu'il y ait une succession comme ça d'attachement et de détachement. L'attachement se constitue puisqu'il faut passer de la situation quasi-symbiotique du giron à une situation qui est le premier détachement que fait le père dans la naissance autonomique, et soutenant la base de l'enfant et se prolongeant jusqu'à sa tête, dans toute son affection, il lui permet ce premier détachement qui est de quitter le corps maternel qui vient de l'accueillir après la naissance et après la coupure du cordon par le père, pour pouvoir être soutenu et sentir pour la première fois qu'il se porte avec le soutien de son père. Donc il y a une verticalisation qui est déjà une expérience de l'espace environnant et qui est une activation de la substance réticulée activatrice d'éveil. Alors l'espace, c'est aussi que vous êtes constamment, et ça c'est très passionnant parce que ça rejoint peut-être d'autres choses, mais quand on va rencontrer, on parlait de la rencontre de l'approchant, de l'approché, et de l'invitation que l'approchant fait à l'approché.
Dans la bonne distance.
La bonne distance, dans la juste distance. Eh bien, ce que découvrent les stagiaires, par exemple, avec étonnement dans les apprentissages, c'est que dès qu'on va chez l'autre et qu'on ne s'occupe plus de soi, on retourne chez soi. C'est-à-dire d'aller à la périphérie vers l'autre, de rencontrer l'autre, fait qu'on se remet dans son centre, on se remet dans sa base, parce qu'on est tout de suite re-régulé sur le plan du tonus et de son souffle et de l'harmonie de la rencontre dans quelque chose qui fait qu'on est à la fois là-bas et ici.
Toujours un peu réticente et un peu gênée, Dominique Descamps, mais parce qu'on parle beaucoup d'âme, de bon, de... tout à coup, j'ai l'impression d'une sorte de relan un peu chrétien là-dessous.
Oui,
hein,
je sais.
Surtout qu'il y a des histoires de bébés, de oui, père qui est forcément toujours présent.
Ah, non, 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 non. En tout cas, ce qu'il faut dire pour un accompagnement périnatal, c'est que c'est vrai qu'il faut que le père soit là. Parce qu'on ne fera pas d'accompagnement périnatal, sauf circonstances.
Il y a une relation triangulaire.
Il y a une relation triangulaire, absolument. Qui peut être faite exceptionnellement avec quelqu'un d'autre à partir du moment où c'est une nécessité qui s'impose pour la mère et le bébé, pour cette grossesse spécialement. Oui, c'est vrai. Si vous voulez, c'est Michel Montrelet qui avait écrit tout un livre en disant que l'âme était proscrite des psychanalystes. Et c'est vrai que, si vous voulez, peut-être cela... Je voudrais absolument pas rentrer dans quoi que ce soit de religieux. Ce qui m'intéresse dans la façon dont décrit le peu que peut dire Franz Wellmann de l'âme, si ce n'est que l'âme, c'est l'affectif pour Franz Wellmann. Il ne dit pas qu'elle est éternelle ni immortelle. Il dit elle est illimitée. Et là, on rejoint quelque chose d'extrêmement intéressant qui rejoint la physique quantique. Vous savez ce phénomène quand vous aimez fort quelqu'un, ou que quelqu'un vous importe très fort, il peut arriver que dans des circonstances exceptionnelles, et c'est celle de la dernière guerre qui, je pense, ont fait percevoir de façon très claire à Franz Wellmann cet aspect de l'affectif humain, c'est-à-dire que dans des circonstances extrêmes, où l'être humain est en péril vital constant, à ce moment-là, il est capable de rouvrir tout un savoir génétique non conscient qu'il porte en lui, que nous portons tous, qui est l'histoire de l'humanité dans nos gènes. Eh bien, c'est cette capacité à ce moment-là de développer les antennes aperceptives de la perception de telle manière qu'on a un discernement très aigu concernant l'espace-temps et la relation à l'autre. C'est-à-dire qu'on sait exactement si on est menacé par l'autre ou pas, et si quelqu'un qu'on aime est en danger, on sait exactement à un moment donné, on est réveillé. Le nombre d'histoires où des personnes me disent « Je me suis réveillée la nuit, c'est exactement l'heure où mon petit-fils est né, ou bien où ma mère est morte, ou bien mon enfant était en danger, il dormait à la pouponnière, je me suis précipitée, il était en train de s'étouffer. » C'est-à-dire toutes ces choses qui font qu'on est, entre guillemets, branché par l'abscisse, par le contact tactile à distance, mais que nous utilisons très peu dans les circonstances de paix. Je pense que Franz Wellmann a très profondément vécu combien des êtres tout à fait ordinaires dans la vie courante se sont révélés d'une grande générosité humaine et d'une grande attention pour autrui dans les camps de concentration, et ont été capables de donner aux autres énormément, alors que d'autres personnes qui étaient dans des situations beaucoup plus intelligentes ou beaucoup plus puissantes se sont effondrées comme des châteaux de cartes à partir du moment où ils se sont trouvés dans une situation où ils n'avaient plus leur repère. Et je crois que c'est ça, c'est-à-dire que l'âme, le bon, c'est tout simple, c'est-à-dire que l'être humain profondément est en quête de sens et que pour pouvoir vivre, il faut qu'il y ait du sens. Et le sens, il est donné par les expériences de plaisir initial qu'un bébé peut vivre tout simplement au cœur de la relation avec ses parents ou ses substituts parentaux, s'ils ont la bonté de lui donner ce qui est nécessaire de cette façon. C'est-à-dire, tout être humain peut, et ces facultés-là sont en attente jusqu'à la fin de la vie. Et c'est pour ça qu'on peut travailler avec des vieilles personnes en autonomie, tout à fait. Moi, je travaille avec des personnes de 70, 70 ans. La plus jolie chose que j'ai vécue, c'est une vieille dame en deuil qui est venue me voir en deuil de son mari. Et à la fin du travail qui accompagnait ce deuil, elle m'a dit, vous savez, je crois que je vais faire quelque chose. Je lui ai demandé quoi. Elle m'a dit, je vais apprendre à nager. Et elle a appris à nager. Alors, le relan, c'est une expérience, le bon. Quand vous êtes vraiment dans ce partage avec l'autre et que vous sentez que vous êtes dans une tranquillité, un plaisir et une réciprocité, il y a un niveau plus ordinaire qui est ce bon partagé. Et dans les expériences les plus intimes et les plus profondes de la rencontre haptoanalytique, quand vraiment on a été dans cette qualité de rencontre profonde, je dirais, où c'est échanger quelque chose d'un autre niveau, je ne sais pas si on peut l'appeler autrement que d'âme à âme, c'est-à-dire dans la pureté de l'affectif qui se partage, il y a quelque chose, une expérience qui est inoubliable.
Alors qu'est-ce que la corporalité animée justement, puisque là il s'agit d'âme et de corps?
Bien, Franz Wellmann différencie quatre choses pour pouvoir amener justement la corporalité animée de rencontre. Il dit il y a le corps c'est le corps anatomique, on est structuré homme ou femme et voilà, avec toutes les caractéristiques génétiques. Il y a la corporalité qui est le corps physiologique avec un certain fonctionnement, je pourrais dire. Il y a la corporalité, c'est déjà ce qu'on expérimente dans la deuxième séance de découverte, c'est-à-dire comment d'entrer en contact avec l'autre, indépendamment de toute affectivité, déjà modifié. Vous voyez bien ce qui se passe quand on est phobique du contact dans un ascenseur. Tout de suite, on se tend, on se met contre la paroi, on se met à 90 degrés avec l'autre, et on essaie de l'éviter. Quand vous êtes au cinéma, les gens vous passent les fesses au ras du visage, en essayant d'éviter, il se distancie. Bon, c'est ça.
Et on a des tendinites partout.
Alors voilà, et la corporalité animée de rencontre, c'est justement quand on peut vivre le sentiment d'être une personne, qu'on a conscience de soi et qu'on est en même temps au-delà de soi, dans ce sentiment tranquille de complétude, eh bien, il y a la possibilité d'être dans une corporalité animée, c'est-à-dire avec toute son âme, toute son authenticité, tout ce qu'on est, sa personnalité, ses façons d'être et sa manière à soi de pouvoir être au monde dans la rencontre avec autrui. Alors, je dirais que dans ce contact tactile pour le thérapeute, ou tout thérapeute quel qu'il soit à travers les applications de l'aptonomie, il y a le principe de PTP, c'est-à-dire un principe qui est de transparence et de prudence. C'est-à-dire on est avec son authenticité, dans sa présence authentique, avec transparence et prudence. Et ça peut être aussi avec toute sa probité. C'est-à-dire que dans la thérapie, il y a un engagement avec l'autre. Et il n'est pas question de l'abandonner. On va jusqu'où on peut avec lui. Et si on ne peut pas aller plus loin, il faut avoir la probité de lui dire que là, on ne peut pas plus. Et qu'on va travailler avec quelqu'un d'autre pour l'aider plus loin si on n'est pas apte à le faire.
Et qu'est-ce que vous faites, Dominique Descamps, lors de la violence et de l'agressivité ?
Alors, je crois que on vit une culture, si vous voulez, où il y a une différence, je crois, très importante entre l'agressivité et la violence pour l'être humain. Quand on a cette intentionnalité vitale bien développée par un sentiment vécu de sécurité de base et de sentiment de complétude, il y a quelque chose qu'on appelle l'agrédure, c'est-à-dire le courage et le plaisir de vivre, qui se traduit par de l'agressivité dans le sens du terme. Pour qu'un enfant explore un jouet, pour qu'on puisse aller sur le tas de sable un petit peu partagé avec les autres, il faut une certaine dose d'agressivité dans le bon sens du terme. Mais par contre, ce qui est différent, c'est que quand on n'a pas ce sentiment de sécurité, qu'on est dans un sentiment d'incomplétude, où il faut tout le temps être reconnu par les autres, où il faut tout le temps dire « ôte-toi de là que je m'y mette », où il faut tout le temps avoir des preuves qu'on est le plus fort, eh bien ce qui se passe à ce moment-là, puisqu'on ne peut pas faire autrement, on a peur de l'autre. Et comme on a peur de l'autre, tout de suite on vit l'autre comme un ennemi. Et dans cette ça peut prendre des formes extrêmement déguisées et subtiles, bien entendu. C'est pas forcément je t'envoie un coup de poing et je te fous par terre. Ça peut être simplement que tout de suite il y a un sentiment de menace dans la présence de l'autre. Et de manière non consciente et à son insu, l'autre le sent instantanément. Et c'est pour ça qu'à certains moments, l'agressivité devient incompréhension, elle devient agression et elle devient violence. Et une grande part de l'agression que des enfants violents peuvent perpétrer par rapport aux autres est liée au fait qu'ils sont dans cette insécurité, dans ce manque de confiance en autrui, puisqu'ils ne sont pas en confiance en eux. Et ils n'ont pas conscience d'eux. Et à ce moment-là, n'ayant pas conscience d'eux, je pense que si certains meurtres d'enfants peuvent avoir lieu par d'autres enfants, c'est que l'autre n'est pas vrai et il n'est pas comme un autre soi-même. C'était Jean-Yves Leloup qui disait qu'on ne souffrait pas de la perte de l'être, qu'on souffrait de la perte de l'autre. Et si vous voulez, ça rejoint ce que disait Lévinas sur l'autre n'a plus de visage. Il est, si vous voulez, quand vraiment à un niveau social on arrive trop loin dans cette chose-là, eh bien je pense que où c'est la citadelle de l'ego, on est dans son bunker, on se mure, on a ses jeux vidéo, ses machins, comme certaines habitudes japonaises, quand on est fanat d'une chose et on ne peut plus sortir de ça et on est protégé du monde extérieur à l'intérieur de ça. Alors, où on est dans sa citadelle de l'ego, ou bien c'est l'affiche de John Malkovich, vous savez, l'affiche là dans la peau de John Malkovich, ou bien alors on est comme la torture romaine dans l'escadron de la torture romaine, il faut être tous pareils, et s'il y en a un qui est différent, il est le bouc émissaire, il est celui à abattre, parce qu'il ne faut pas être différent à ce moment-là, c'est trop dangereux.
Alors Dieu nous donne du contact affectivo-confirmant, c'est ça, Dominique Descamps ?
Je ne sais pas si c'est Dieu, je ne sais pas qui. Franz Wallmann ne serait pas du tout d'accord avec cette idée d'un Dieu nous donnant quoi que ce soit. Je pense qu'il y a assez de spiritualité dans l'être humain pour que ce soit d'être humain en être humain qu'on puisse se transmettre le bon de la vie.
Merci Dominique Descamps. Alors à lire « Aptonomie, science de l'affectivité » de Franz Wallmann au PUF. Et puis toute la documentation, la liste des ouvrages et des articles sur l'aptonomie, on peut le trouver au CIRDH, Anne-Marie Van Pollen, 66 400, Homs, par Serré.
François Dagonier, vous avez écrit en 1993, je crois, La peau découverte. Alors pourquoi d'abord cet intérêt que vous avez eu pour la peau ?
Parce que, pour deux raisons, au moins. La première, c'est que la médecine est traversée par une sorte d'idéologie, en tout cas d'une erreur culturelle profonde, que partagent d'ailleurs les théoriciens, les historiens, les épistémologues, à savoir que cette eau, qu'il faut ouvrir les corps et que c'est au fond d'eux-mêmes qu'on va trouver la leçon fondamentale de l'organisme. Alors que, erreur profonde, c'est la surface que tout se joue. C'est la peau qui est l'appareil, la fonction majeure. Alors, oui, toujours aller au-delà du miroir, derrière le miroir, on croit qu'on va trouver des choses, mais non, c'est à la périphérie que le drame se passe. Et j'ai essayé de montrer, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas d'affection, pas de pathologie possible, sans qu'il y ait un affichage sur la peau. Alors, il était capital qu'un historien de la médecine que je souhaite être, eh bien, renverse les valeurs. La seconde raison pour laquelle la peau m'intéresse, c'est que nous sommes entrés dans un univers où la peau est sacrifiée. Et par conséquent, il était bon qu'elle soit un petit peu ressuscitée. Pourquoi sacrifiée? Parce que le visuel dont je suis d'ailleurs l'adepte, et dont je suis, je pense, c'est l'organe, enfin c'est le sens le plus évolué, seulement il a tellement tout accaparé que le toucher, la peau est laissée à l'écart. Alors, l'inflation des ordinateurs, des télévisions, voire même des portables de notre société, met entre parenthèses, enfin, exclut la peau, le toucher, le contact, j'allais dire, la proximité avec les choses.
Il y a l'idée aussi que, pour vous, il y a une dialectique qui se joue sur la peau entre l'intérieur et l'extérieur, le dedans et le dehors, que seul le vivant actualise ou réalise.
Oui, je vais vous donner un... L'évolution a fait que les premiers animaux, ils ont, comme les végétaux, ils ont tout mis à l'intérieur. D'ailleurs, c'est un problème pour moi de botanique qui est le suivant. Si je vous montre une noix ou une noisette, vous avez vu les efforts qu'il faut faire pour la casser, la coque? Or, la graine, le germe, est à l'intérieur. Comment est-ce qu'il va sortir? Le végétal, il a fait une erreur. Il s'est emmuré pour se protéger. Seulement, il va mourir de cette... enfermement faramineux. La noisette, elle va rester des années et des années sur le sol. Comment la graine va-t-elle pouvoir sortir de cette carapace? Alors, évidemment, le vivant, il veut être protégé contre la mort et contre l'ennemi, c'est bien naturel. Seulement, il commet une erreur s'il se met à l'intérieur d'une cuirasse telle qu'on ne peut plus, il ne peut plus en sortir. Alors, qu'a fait l'homme? C'est l'animal supérieur. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, lui, il a préféré mettre la sensibilité. C'est-à-dire, tout le dedans est au dehors. C'est le dehors qui compte, parce que c'est là qu'il faut être le mieux. La meilleure protection, c'est celle qui m'avise d'un danger qui va venir. Moi, quand je vois quelque chose au loin, j'ai le temps de m'éloigner si je le trouve dangereux. Par conséquent, je suis à l'abri. Et comment je ne suis pas à l'abri en mettant à l'intérieur d'une cuirasse qui me perdrait, qui m'immobiliserait, je ne pourrais plus rien faire, je ne pourrais plus bouger. J'ai préféré mettre la mobilité, la liberté, la facilité au dehors, c'est là qu'est la peau, la sensibilité. Donc, alors que les premiers animaux s'entouraient d'une coque aussi, le cuir, la carapace, ou même la fourrure, parce que la fourrure, dites, c'est pas, il n'y a plus de peau là, c'est là uniquement la défense. Mais vous savez, quand on a une armure si lourde à force de se défendre, on ne peut plus attaquer, on est prisonnier de son arme. C'est pourquoi le vivant, lui, il a mis... L'épiderme, c'est une feuille la plus sensible, la plus fragile, la plus délicate, la plus subtile, la plus informante.
Et en même temps, un petit peu coriace.
Oui, elle reste quand même, malgré tout, c'est tout de même pas la déliquescence, ni l'abandon, ni la fuite de tout. Oui, il y a une résistance, il y a un tissu un peu scléreux, il y a des fibres de collagène, même aussi des fibres élastiques. De telle manière que la peau, elle a une consistance, c'est vrai, mais pas une consistance telle qu'elle entrave la mobilité. Et encore moins la sensibilité.
On peut dire que la vie se loge là, à l'intersection entre moi et l'autre, entre l'organisme et l'environnement, François Dagony.
Ah oui, elle est interface, fondamentalement, et par conséquent, elle n'est pas dans la viscéralité, dans la profondeur. D'ailleurs, quand on ouvre un corps, ce qu'on fait à l'autopsie, on a bien l'impression que c'est pas là qu'est vraiment le vivant. Le vivant, il est à l'extérieur. L'extérieur qui dit l'intérieur, d'ailleurs. Car il n'est pas de physiologie interne qui ne vienne se réfléchir sur la peau. Dites, je vous donne un exemple. la fabrication, par exemple, du tissu osseux. Vous allez me dire, la peau n'a rien à voir là-dedans. Eh bien, en réalité, si, parce que ce que nous digérons, ce que nous métabolisons, les derniers restes de la nourriture, ils viennent par les capillaires tout près de la peau, et c'est le soleil qui va achever leur trajet, ce qui nous vaudra la vitamine D. La vitamine D suppose un certain ensoleillement, suppose que la peau, encore une fois, reçoive l'énergie pour transformer les dernières molécules de la digestion. Laquelle vitamine D va intervenir dans les processus osseux de consolidation? Et celui qui vit toujours dans une cave, eh bien, il sera frappé de rachitisme, comme cela est bien connu. Et je pourrais prendre toutes les physiologies une à une pour vous montrer que c'est à travers la peau qu'elle opère leur fonctionnement. Donc, c'est quelque chose de fondamental.
Vous parlez aussi du cerveau en disant finalement que la biomédecine n'a pas accompli sa révolution copernicienne, c'est-à-dire de reconnaître que le centre véritable se trouve à la périphérie et que la peau est le cerveau de la périphérie.
Oui, pour la raison bien simple, c'est que finalement, le cerveau et la peau dérivent du même feuillet embryologique. Le même. Donc, le cerveau, qu'est-ce que c'est ? Ou bien la peau, qu'est-elle ? Parce que la peau, elle est remplie de terminaisons nerveuses. L'immunité, qui est quand même la donnée fondamentale de la vie, les anticorps, les immunoglobulines, etc., qui nous défendent, elles sont dans la peau. Alors, entre la peau et le cerveau, effectivement, il y a un couplage bénéfique. La peau, c'est la sensibilité. Elle alerte le cerveau répond. On ne peut pas séparer l'un de l'autre. Encore une fois, le fait qu'ils dérivent du même feuillet le met en évidence. Et d'ailleurs, j'avais été frappé d'une chose, c'est que si un individu, non pas comme celui qui est descendu hier dans la caverne pour 2 mois, parce que lui n'était pas privé de toute sensorialité, on les avait diminués, mais enfin il restait, il voyait. Mais un prisonnier, par exemple, c'est ce qu'ont fait d'ailleurs les terroristes. Ce qu'ont fait les polices allemandes. Un prisonnier, elles l'ont situé dans un ensemble où il était privé de toute donnée sensorielle, de tout stimulus, ni visuel, ni tactile, ni à travers la kinésie, à travers le mouvement. Savez-vous qu'au bout de 3 jours, il devient fou et il se suicide? Pourquoi? Parce que le cerveau est complètement... Après des périodes d'hallucination, d'ailleurs. Parce que le cerveau est complètement détraqué, s'il n'est pas vivifié, alerté en permanence par la peau, qui est sa sentinelle. Alors, effectivement, il y a un couplage, et la preuve est faite. D'ailleurs, il y a une chose aussi qui m'a frappé, les jeunes animaux, pour leur donner leur vitalité, leur combativité, la mère ne cesse pas de les lécher, c'est pas pour des raisons de propreté. Alors, j'avais remarqué aussi que, par exemple, le jeune chat, s'il n'est pas suffisamment frotté, léché, caressé, tripoté, il va utiliser la chaise, par exemple, le barreau de la chaise, pour se frotter contre lui, parce que la stimulation épidermique ou cutanée, encore une fois, c'est ça qui va favoriser la maturation cérébrale, son accomplissement. Par conséquent, je ne sépare pas la peau du cerveau, le cerveau n'étant qu'une multiplication des possibilités cutanées afin de les répondre à celles-ci, et celles-ci lui sont indispensables.
Aujourd'hui, au niveau du toucher, oui. Vous le remarquez, oui. Et du coup, on se met des crèmes, on va voir un masseur, un coiffeur, justement pour pallier au manque de toucher.
Oui. C'est bien ce que je vous disais, la civilisation actuelle barre trop le toucher ou la peau. Et alors, il y a une revanche indispensable. D'ailleurs, bien que les médecins de la médecine canonique le rejettent, il n'en est pas moins vrai que beaucoup de malades gagnent à la balnéation, à l'hydrothérapie, enfin à tout ce qui vient toucher la peau et la remuer, la sensibiliser. Et surtout, encore une fois, la stimuler. Alors oui, vous dites les massages, c'est vrai, les crèmes, c'est une revanche. car comme je vous le disais au début, notre société est trop ocularisée, trop visualisée. Ah, on a besoin précisément de la proximité. Je suis effrayé à la pensée que demain, par exemple, les jeunes femmes n'iront plus faire leurs courses, toucher les étoffes, les produits, elles feront leurs achats sur un ordinateur. Alors, dites donc, c'est purement visuel cette fois-ci. Ah oui, on a besoin de toucher les étoffes, leurs grains, leur lisséité, leur granulé, ou toucher les choses, parce que c'est vraiment la meilleure façon peut-être de les connaître, parfois. Alors supprimer cette avancée me paraît grave et susceptible de névroser.
Oui, parce qu'il y a aussi l'idée que toucher la peau, être touché, c'est aussi comprendre la territorialité, la différence entre le moi et le non-moi.
Ah, comme vous dites, oui, parce que c'est là qu'on est le mieux... Oui, on est le mieux informé de la situation, comme vous dites, territoriale. Oui, on ne peut pas se contenter, enfin, de tout traiter à distance. Oui, le toucher, donc la peau, encore une fois, assure une fonction d'intégration et de stabilité et donne au moi sa consistance. C'est pourquoi, d'ailleurs, les malades mentaux, ils gagneraient à être traités par ces moyens cutanés un peu bizarres. Parce qu'ils sont décorporéisés, ils sont perdus dans leur espace, ils n'ont plus de repères. Je crois que la présence cutanée, tactile, est un stabilisateur et permet en tout cas la reconnaissance du moi et du non-moi, du moi et des autres. Oui, par conséquent, c'est un facteur d'intégration.
Alors, tout ça m'amène à penser que finalement, c'est une manière de prouver qu'on ne distingue pas la chair de l'esprit.
Oui, encore une fois, la philosophie et la culture européenne ont été trop dominées par une philosophie d'essence platonicienne, selon laquelle le monde n'est qu'un tissu d'erreurs et nous trompe. Il faut par conséquent le quitter comme un asset pour rejoindre des essences transcendantes, immatérielles, invisibles. Et par conséquent, il y a eu toute une schizophrénie culturelle profonde qui, bien entendu, alors le cutané, est mis au plus bas. D'ailleurs, c'est dangereux le cutané parce que dès qu'on touche, on est gagné parce qu'on touche. Ah, alors, il y a une infiltration, il y a une séduction, Non, il faut mourir au corps dans la philosophie platonicienne pour accéder à l'idée. Prendre la main de quelqu'un déjà, c'est le commencement d'un engagement dont on ne pourra peut-être pas se déprendre. Parce que, avec la vue, au moins, il y a une distance entre l'objet et puis moi. Mais avec la peau et le toucher, annoncé, je le répète. Alors, la tactilité, c'est l'envahissement, l'absence de distance, la proximité, donc l'invasion. Alors là, sur ce point, Platon, et comme la plupart des philosophes, sont particulièrement virulents, les gars, contre la peau.
C'est vrai que la singularité de la peau, c'est qu'elle ne peut se soustraire à ce qui l'affecte et la stimule.
Oui, évidemment. Et d'ailleurs, il y a une chose que je ne vous ai pas dit, mais qui va dans, je pense, dans ce sens. La peau, c'est probablement l'organe le plus personnalisé. La preuve, les empreintes digitales. Autant que l'ADN, hein, avec les empreintes digitales, on est capable de reconnaître celui qui a posé sa main ici. C'est donc un des tissus les plus différenciés et les plus personnalisés. Alors, vous savez, il y a des terroristes ou des bandits, ils se brûlaient l'extrémité de leurs doigts pour que soient effacées leurs empreintes. Parce qu'avec des gants, on ne peut pas bien manipuler. Alors, ils préféraient leurs mains débarrassés de leur peau. Mais malheureusement, la peau repousse et reviennent les empreintes digitales. Par conséquent, l'empreinte de la peau, elle est ineffaçable. Vous avez beau brûler vos doigts, reviendront les empreintes digitales qui les marquaient et qui les singularisaient. C'est vous dire que c'est quand même un tissu tout spécialement individualisé. Et d'ailleurs, quand on greffe la peau d'un individu, on lui prend sa peau à lui. Parce qu'il est très difficile de greffer la peau d'un autre sur le même. On peut greffer, moyennant des immunosuppresseurs, on peut greffer un foie, un cœur, etc. Mais la peau, on ne s'y emploie pas tellement. C'est un organe subtilement personnalisée. Alors je le répète, on prendra la peau à votre cuisse, à votre jambe, n'importe où, puis on la fera grandir pour... D'autant que, si vous le savez, si vous perdez beaucoup de peau, vous ne pouvez pas vivre. Les grands brûlés, c'est ça leur malheur, on n'arrive pas à trouver l'étanchéité qui les protège contre à l'écoulement d'eux-mêmes. Donc, par conséquent, donc tout ça nous prouve que, aussi bien du côté des philosophes que des médecins, oui, les biologistes sont peu portés vers la peau parce que ils ont besoin, pour se rassurer, de recourir à des instruments puissants. Mais là, la peau, elle, c'est un miroir, elle vous est offerte. Il suffit de regarder des pieds, de bien observer. Alors, évidemment, c'est un acte peut-être plus difficile parfois que de manipuler des appareils compliqués qui vous donnent des résultats, d'ailleurs incontestables. Mais là, la simple observation, c'est un acte peut-être trop élémentaire.
On préfère les fractions, le déchirement, voilà. Il y a cette pulsion-là.
La complication, l'artificialité, le terrorisme des appareils, un petit peu de terre. La puissance des appareils, qui sont très puissants. Puis surtout, c'est très impressionnant et surtout rassurant pour le thérapeute, parce qu'il manipule quelque chose. Alors là, il s'occupe. Mais quand je vois votre peau, dites, c'est un simple regard, je le répète, observé, épié. Car il n'y a pas de pathologie qui vienne se dessiner sur elle. La peau est comme un tatouage naturel. Elle a, d'ailleurs, les moindres transformations qu'on a connues ont laissé des cicatrices. Elle conserve la mémoire de ce qui l'a marqué. Par conséquent, c'est un beau hiéroglyphe, la peau. C'est un beau texte. C'est un texte. Il faut apprendre à le regarder de près. Je répète, il est plein de notations. Alors il faut être un herméneute, un exégète, un traducteur, un lecteur, un observateur, un épieur, un regardeur, un liseur de ce document extraordinaire qui signe la vie de l'homme.
Tout ce que vous dites sur la peau, donc ce lieu où le moi et l'autre se rejoignent, l'intérieur et l'extérieur, le dedans, le dehors, oui. Moi ça me fait penser qu'il y a peut-être une politique un peu derrière.
Oui, il y a une raison politique à cette idéologie générale qui veut ignorer ce qui est visible. En quoi consiste cette idéologie pour moi ? On préfère les abstractions plus ou moins indistinctes et ignorer la réalité. La bourgeoisie, politiquement, elle ne tient pas à ce qu'on voit comment les choses sont, dans la mesure où les choses sont injustes et perverses. Elle dissimule l'exploitation et la nie. Non, ne regardez pas les choses, allez au-delà de celles-ci, vers des... C'est par conséquent une déréalisation. Mais la déréalisation, encore une fois, c'est quelque chose de grave, parce que ça détourne l'homme des situations dans lesquelles il vit. On le dédramatise, on lui dit, mais non, ceci ne compte pas, la peau ne compte pas, il faut aller au-delà d'elle. Non, la situation telle que nous la voyons compte peu, il faut voir au-delà. Mais au-delà, il n'y a rien, ou peu de choses. Mais par conséquent, on vous a, en quelque sorte, démobilisé. Puisque ce qui vous est offert ne compte pas, il faut voir autre chose, on ne sait pas trop quoi, mais je sais que cette autre chose n'est pas pour moi. Et par conséquent, on vous a, encore une fois, asphyxié, et je répète le mot, démobilisé. Donc, si vous voulez voir une intention sociale ou sociopolitique, je crois qu'elle est assez évidente.
Et puis il y a l'idée aussi que l'idée assez dérangeante que la peau est précisément la concrétisation d'une profondeur qui ne craint pas de venir à la limite.
Oui, puis surtout on sait très bien que la peau c'est le lieu de ce qu'on rejette dans la société, la sexualité. Freud a bien montré qu'elle était refoulée. Or c'est la peau qui est l'organe de la sensualité et de la sensorialité. Alors la sexualité. Et puis tout ce qui touche, enfin l'organique, ah oui, c'est l'instinctuel. L'instinctuel, alors là, il est évincé, éliminé. On veut vivre dans un monde arcadien, idéal, serein, où il n'y a rien. Alors donc la peau subit encore une fois cette dévalorisation à travers une désexualisation généralisée. Donc un mensonge. Finalement, c'est le mensonge qui l'emporte. La peau est la vérité. Et la vérité, en ce sens, en tout cas, elle est la réalité.
Voilà, d'où ma peau, et c'est parti pour découvrir un peu les relations entre la peau et la psychanalyse. Donc, c'est les moi-peau. Les moi-peau est d'abord une image très forte. Tout de suite, on a le moi et la peau. Et c'est une métaphore. C'est le psychanalyste Didier Anzieu qui avait étudié, analysé les relations entre la peau, le corps et les moi, le psychique, pour voir, pour découvrir comment toute fonction psychique se développe par appui sur le corps, ça veut dire à partir du corps. Et les moi-peau de Didier Anzieu analysent donc ces rapports entre le corps, les gestes de la mère et de l'enfant. Didier Anzieu avait donné plusieurs fonctions aux moi-peau, fonctions qui se construisent dans les rapports entre la mère et l'enfant, fonctions qui permettent à l'enfant de mieux construire son moi psychique. Alors ça veut dire que le bébé, dès sa naissance, fait l'expérience du vide. Et son premier appui, premier contact, c'est le contact avec la peau de la mère. Et la peau est le premier instrument de change des communications avec l'autre. Pour comprendre, raconter, parler de ma peau, de Didier Anzieu, j'ai rencontré Martine Lussier. Elle est psychologue et psychanalyste. Et elle avait collaboré avec Didier Anzieu. C'est avec elle qu'on parle de quelques fonctions du moi-peau les plus importantes pour décliner et comprendre le moi-peau.
Et chaque fois qu'elle dit « il », c'est de Didier Anzieu dont il s'agit.
Toujours.
Parler de la fonction de maintenance sur le fait que la peau est le soutien du squelette et des muscles. Et donc de cette idée de maintien, de support, il avait dérivé la notion de maintien du psychisme. Évidemment, on passe dans un autre registre. Et ce maintien du psychisme se développait, selon lui, par identification à la mère, qui, par la manière dont elle porte l'enfant, dont elle le tient contre son ventre, on le voit bien avec les kangourous, ce qu'on appelle les kangourous, ou dans le dos, comme les mères africaines, permet à l'enfant de s'identifier à ce support maternel. Et aussi, les mains de la mère ont évidemment un rôle prépondérant, parce qu'on retrouve là la notion d'agrippement.
La peau de la mère et la peau de l'enfant, ça devient une seule peau.
Tout à fait, c'est le fantasme de peau commune à ce moment-là. Alors qui est encore plus évidente dans la deuxième fonction, je crois, qui est la fonction de contenance. Où la peau est là pour signifier à une fonction de sac, qui indique donc une continuité et une cohésion du corps. C'est une autre manière de voir ce qu'on évoquait juste précédemment. Et qui va être là le support physique au sentiment de continuité de soi, de cohésion de soi. Et donc, cette fonction-là s'acquiert par la manière dont la mère materne son bébé. C'est tous les gestes de maternage, c'est-à-dire la manière dont elle le manie, dont elle le manipule, dont elle lui donne les soins corporels. Donc là, il y a encore un grand rapproché de contact de peau à peau, de corps à corps. La main joue aussi un rôle important. Et c'est vrai que cette fonction de sac qui va donner le sentiment de continuité de soi la première étape où on voit se distinguer la notion de limite, de limite corporelle et donc aussi de limite de l'identité. Une fois que cette notion de limite est acquise, la fonction de parexcitation peut s'installer. Alors là, il se fonde sur le modèle de la peau tout à fait directement en distinguant l'épiderme et ce qui est juste en dessous, le derme. Donc on a là une fonction à deux dimensions, deux pellicules. Alors la fonction, c'est donc un système double. Et c'est là qu'on a à la fois une surface d'excitation, celle qui est la plus externe, celle où on reçoit tactilement le froid, le chaud, les griffures, les petites atteintes, et le derme qui est juste derrière et qui, elle, est une surface d'inscription. Et donc il a pensé à la... Alors le paroxytation existe chez Freud, donc là il l'a repris, mais en l'étoffant à partir de l'image de la peau sur ce système double. Et cette fonction de parexcitation doit assurer la constance des échanges entre l'extérieur et l'intérieur, comme la peau a cette fonction de nous protéger, régule notre température entre un milieu externe et notre milieu interne. Donc quand il fait trop chaud, il y a de la sueur, donc ça passe à l'extérieur. Il y a des phénomènes de vasodilatation.
Disons que la peau est aussi la limite.
Tout à fait. C'est exactement ça qui se constitue à ce moment-là. On voit bien, c'est la limite. Ce qui permet les échanges, c'est vraiment la frontière poreuse. C'est-à-dire, c'est bien une limite, mais en même temps, c'est bien ce qui régule nos échanges. Et quand on en est à la fonction de parexcitation, pour nous la faire comprendre, il prend le modèle de la peau. Donc là, c'est complètement calqué sur l'épiderme et le derme. Et cette fonction de constance est tout à fait importante, puisque c'est elle qui va réguler le niveau d'excitation et notre capacité à inscrire ou à ne pas inscrire quelque chose.
Si on commence à regarder la peau, on dit que la peau a son odeur, sa couleur, c'est personnel, c'est unique, quoi. Et donc, il y a une autre fonction de moi-peau, qui est la fonction d'individuation du soi.
Oui, c'est, alors à ce moment-là, on est tout à fait séparé de la mère, le fantasme de peau commune a disparu, et on peut accéder à une autonomie physique, mais aussi une autonomie psychique. Alors, c'est vrai qu'il s'est fondé là sur les différences interindividuelles sur la peau, dont les plus connues sont la couleur de la peau, mais ce qui est aussi allié à l'odeur, à l'apparence de cette peau, une peau sèche, une peau douce, le degré d'identité. La peau, c'est ce qu'on donne à voir en premier de soi. Alors, ce qu'il évoque dans une autre fonction qui est l'inscription des traces, puisque c'est ce qu'on voit directement, les petites taches, les boutons, etc., peut faire l'objet de honte ou de valorisation, les tatouages qui marquent une communauté d'appartenance, qui affichent un amour éternel.
Encore les cicatrices, par exemple, qui inscrivent une douleur.
Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, ce sont des marquages.
Cette fonction, son but, si vous voulez, c'est la capacité de se reconnaître comme être unique. Comme on a vu précédemment, la peau est quelque chose d'unique, avec des taches ou des tatouages ou des cicatrices.
C'est ce qui fait l'unicité de la peau, de la personne. Excusez-moi, j'ai fait... mais le lapsus est tout à fait dans ce sens-là. Et c'est là que l'enfant se sépare de sa mère. Et bien que Anzune les ait pas hiérarchisées, on sent bien que l'individuation ne peut s'instaurer de manière sûre que si les étapes qu'on a évoquées avant se sont à peu près bien passées. C'est tout à fait important.
Tout à fait. Donc là, vous disiez justement, si cette fonction-là n'est pas accomplie, donc si on n'arrive pas à se reconnaître comme moi, mais on est encore perdu dans les fonctions précédentes, ça veut dire on fait un corps peau commune avec la mère, on est encore trop assimilé à elle, on n'arrive pas à se détacher. Dans ces cas-là, effectivement, il y a des pathologies.
Oui, on peut avoir des sentiments d'étrangeté à soi-même. C'est aussi quelque chose qui se réactive à l'adolescence, quand le corps connaît les transformations pubertaires. Donc, l'identité masculine, féminine va se marquer, et la transformation du corps peut occasionner aussi ces moments d'étrangeté à soi, voire de dépersonnalisation.
Il y a un texte dans les livres de Didier Anzieux, les moi peau justement, qui raconte bien cette liaison entre le moi et la peau. C'est une poétesse et puis une écrivante, une romancière américaine qui s'appelle Sylvia Plath, qui écrit sur la peau.
Je détestais les bébés. Moi qui, pendant 2 ans et demi, avais été le centre d'un univers de tendresse, j'ai ressenti comme un coup de poignard, un froid polaire à immobiliser mes os, étreignant ma rancune. Vilaine et pleine de remords, comme un petit ourson triste, je suis partie en traînant la jambe tristement, toute seule, vers une direction opposée, vers la prison de l'oubli. J'ai ressenti alors, froidement et sobrement, comme si j'étais au loin sur une étoile, la séparation de toute chose. J'ai ressenti le mur de ma peau. Je suis moi. Cette pierre est une pierre. La fusion merveilleuse qui avait existé entre moi et les choses du monde n'était plus. Alors on voit bien là le chagrin d'être supplanté par un autre bébé, donc de perdre ce contact fusionnel, elle le dit très bien, ce corps à corps avec la mère, et tout d'un coup, il y a l'autonomie, l'individuation, mais qu'elle vit, elle, comme une perte, qu'il faut maintenant qu'elle s'approprie son histoire, se construire, et elle le vit comme un manque, elle ne le vit pas comme quelque chose en plus qui lui est donné. C'est vraiment la perte du contact sensoriel qui est le plus vivement ressenti et d'une manière infiniment douloureuse. Enfin, c'est le froid, c'est le froid polaire, c'est la perte. C'est vraiment la perte, la détresse absolue qu'elle dit là. Mm. Et c'était une telle détresse qu'elle s'est suicidée à l'âge de 30 ans. Et le passage déterminant majeur, c'est l'intersensorialité. Le contact, d'une manière générale, connaît différentes modalités au niveau de la sensorialité. Il y a la sensorialité de l'œil, il y a la sensorialité olfactive, l'oreille, etc. Donc il y a une communauté entre ces sens, et il faut unifier cette sensorialité pour qu'elle prenne un sens. Donc, d'où l'idée de correspondance. Et il s'appuyait là, par exemple, sur ce que les poètes ont pu évoquer, les couleurs et les sons dans le poème de Rimbaud sur les voyelles. Donc là, il y a une cohérence sensorielle à créer, à instaurer. Et donc, il avait appelé ça l'intersensorialité, la manière de mettre ensemble différents sens. Autour de l'idée d'être touché, fût-ce par l'oreille, par l'odeur ou par la peau plus directement. Et c'est un moment très important parce que ce passage-là à l'unification de la sensorialité est le premier moment où on va pouvoir s'en détacher. Ne plus être attaché uniquement à un sens, mais de la rencontre de ces divers sens, pouvoir accéder au figuratif, et plus encore au symbolique et à l'abstrait. Donc c'est vraiment un moment clé sur le plan psychique.
Et les premières pensées qu'on a, c'est des pensées de manque, d'absence.
Oui, bien sûr. La pensée naît dans le manque, forcément. Et on voit bien chez Sylvia Plath combien c'est douloureux. Il y a un moment dans la vie de l'enfant où il doit se détacher de ses plaisirs de peau à peau, pour pouvoir acquérir son autonomie et donc sa propre pensée. Et qu'il faut passer au mode de fonctionnement mental. Mais on voit bien comment ça s'étage. Et c'est ça, c'est l'intérêt de la position du travail d'Anjou sur le moi-peau. C'est qu'on voit bien comment le moi se construit à partir du corps. On ne peut pas oublier que nos patients ont un corps.
C'est délicate, j'ai envie de péter ma cravate. Elle a dû jeter un sort à mon corps. Elle est chaude, elle est sauvage, et son parfum fait des ravages. Je titube, je vais tomber. C'est une sorcière ou c'est une fée? Jungle moite, comme un démon sorti d'une boîte. Simon s'en a fait qu'un tour sur l'amour. Oh, l'amour. Elle est toujours aux abois, elle n'a qu'à fondre sur ses proies. Elle sait que son crime est parfait, et que ça me plaît, et que ça me plaît. Oh.
La vie comme elle va après l'autonomie, trois variations sur la peau. Le philosophe sur le tact, il va nous remettre un peu de contact dans tout ça, Étienne Gruyot.
Ben volontiers, le tact, l'absence de toucher, le touchant, on va voir tout ça.
Je suis seul à savoir si ta peau est blanche sous le fil de corail noir.
qui danse à tes hanches. J'ai goûté des fruits verts, trouvé de l'eau sur ton île. Sans toi, l'exil, oasis de mer. On a eu des nuits douces, on a eu des beaux jours. Depuis qu'on a dit pousse, on dirait qu'il fait lourd. On a eu des nuits longues et la pluie sans l'hiver. Une île m'a dit solon entre l'Inde et l'Angleterre.
Vous avez remarqué comme la peau colle à l'être et comme l'être colle à la peau. Vous avez remarqué comme on sort couvert dans l'univers. Le champignon a sa cuticule, le fruit a sa peau, l'arbre a son écorce, l'animal a sa pelisse. Même notre planète a son écorce terrestre, même les murs de nos maisons sont parfois lépreux. Peau de banane ou peau de lapin, tous les êtres sont enveloppés, emballés, ensaqués. Nous sommes de véritables poupées gigognes. Dans le corps, encore, encore des peaux. Le cerveau s'emmitoufle dans le cortex, les centres nerveux ont des méninges pour les entourer, les cellules ont des membranes. Les hommes, au fond, sont comme des oignons pelables à l'infini, jusqu'à peau de balle, la balle étant l'enveloppe vide de la céréale. L'être au monde est un être sous la peau. Avant de naître, j'ai vécu sous la peau de ma mère, dans cette autre peau qu'elle enveloppe placentaire. On peut bien vivre sans yeux, mais pas sans peau, nous l'avons dit tout à l'heure. La peau me définit, me délimite, me détermine. François Dagonier pose cette bonne question, impossible. La peau, est-ce le dehors du corps ou le dedans du corps? L'étymologie ne tranche pas. Le tégument est ce qui recouvre. Mais le derme, du grec déraine, dépouillé, c'est ce qui découvre. La peau donc abrite et expose. Elle est, pourrions-nous dire, ce qui du dedans est déjà du dehors. Elle est un moyen d'échange par là, elle est poreuse. Biologiquement, elle évacue la sueur, le sébum, les toxines, et aussi elle absorbe les soins cosmétiques, les médicaments transdermiques. Par la peau, la profondeur vient à la surface, et ce qui est en surface s'approfondit. Diderot est tout à fait fondé à dire que ce qu'il y a de plus profond chez l'homme, c'est la peau. Psychologiquement, la peau indique aussi beaucoup de choses. La peur me donne la chair de poule, le compliment fait rougir, le choc fait blêmir. Le traumatisme, le stress, le souci, et voilà les boutons, l'urticaire, l'eczéma. Si je t'aime, je t'ai dans la peau, si tu m'agaces, tu me hérisses, tu m'horripiles, tu me rases. Dans la peau, au fond, le monde s'imprime et le sentiment s'exprime. Les anciens disaient bien que la peau est la messagère de l'âme, porte-parole, porte de la parole. Elle dit notre inscription dans la vie, la manière dont notre intériorité s'expose à l'altérité. C'est ce qu'explicite très bien le tatouage ou la scarification. La peau est une plage d'écriture où le sens filtre, et c'est le symptôme, la conversion somatique, comme dit Freud, ou bien plage d'écriture où le sens s'infiltre, et c'est le tatouage. Le tatouage veut ancrer, avec un E, avec un A, sous le derme, sous l'épiderme, dans le derme, profondément l'engagement. Nos engagements existentiels s'inscrivent dans la peau. « Maman, je t'aime » sur le biceps du dur à cuire. La peau est comme une voie d'outre-chair. À travers la peau, la chair se confesse. Rousseau l'avait bien compris en inscrivant cette devise en exergue de ses confessions « Intus et incuté » intérieurement et sous la peau.
Cerdan place encore un crochet du gauche, puis un crochet du droit. Hassan Diouf va encore à terre. 3, 4, 5... 6, 7, 8, Hassan Diouf regarde du côté de son manager de Bretonnel, Martial Cerdan s'approche de lui, Hassan Diouf est dans les cordes et se retire quand même, il est tremblant manifestement, il est très ému, il tombe même tout seul à terre, il se relève et Cerdan le laisse relever, Hassan Diouf très en colère place un grand crochet du droit à Cerdan, mais Cerdan arrive, et Cerdan arrive et lui place des uppercuts et des crochets du droit, des crochets du gauche, de coups du lapin un peu, à la sortie du clinch, encore un crochet du gauche de Cerdan, et Hassan Diouf il vient d'aller à terre deux fois, Hassan Diouf est fatigué et se met un genou à terre lui-même. Il tremble de peur, semble-t-il. Prend un crochet du droit, puis un crochet du gauche. Encore à la figure gauche-droite. Et Hassan Diouf n'est plus qu'une sorte de cible, une sorte de ballon de poutine vol. Et il se tient par miracle, véritablement. Ses esquives sont des esquives qu'il fait sans avoir conscience même de ce qu'il fait. Il arrive dans un coin, Cerdan le prend. Il prend encore un crochet du gauche et se promène sa proie comme il le fait autour du ring. Et s'énerve quelque peu, Cerdan.
Le privilège de la peau, c'est qu'on peut m'atteindre de partout. La peau est le seul organe perceptif non localisé. Contrairement aux autres sens qui sont situés dans des cavités, orbitales, nasales, le toucher, lui, s'étend à tout le corps, il n'a pas de centre. Je peux toucher ou sentir avec les pieds ou avec le ventre si je veux. Le toucher accompagne les autres organes perceptifs qui sont, en un sens, tactiles aussi. Le nez, la langue, les yeux, les oreilles touchent. Le toucher est le paradigme envahissant de tous les autres sens. Chaque sens est une métaphore du contact. On dit que le son strident écorche les oreilles, que la vue est corrigée par des lentilles de contact. Les enfants disent que l'eau gazeuse pique. On serait alors tenté de lui accorder, au toucher, une valeur épistémologique éminente et même une valeur métaphysique. Il est commun de dire que saint Thomas avait besoin de voir pour croire, mais c'est faux, il a besoin de toucher, il met ses mains dans les plaies du Christ. Le réaliste veut plus que du visible, il veut du tangible, du palpable. Au fond, l'avantage du toucher, c'est que c'est un sens prudent. Il revendique sa vue courte, il est limité à la périphérie du corps, il reste près des choses. Mais sa particularité, c'est qu'on ne peut toucher sans être touché, alors qu'on peut voir sans être vu. Le toucher est un sens actif et passif à la fois. Par le toucher, je m'engage, mais aussi je m'expose. Merleau-Ponty a bien vu cela dans son œuvre « Le visible et l'invisible » en méditant sur ce qu'il appelle la réflexivité du senti. Essayez, touchez votre main gauche avec votre main droite. Votre main droite est à la fois touchante et touchée. Votre main droite est une main mise et en même temps une main prise. Pour Merleau-Ponty, c'est une révélation. Dans le toucher, le senti est sentant. C'est la seule expérience où l'objet perçu coïncide avec le sujet percevant. Quand on touche un objet différent de soi, ça peut toujours être une illusion, Descartes l'a bien montré, avec l'argument du rêve dans la première méditation. En rêve, je touche aussi. Et puis aujourd'hui, la simulation par ordinateur a sophistiqué de telles illusions. Il suffit de ce vestiaire particulier qu'on appelle un visiocaste, il vous suffit de chausser des gants à retour tactile et vous aurez le sentiment de sentir les objets virtuels. Avec ces gants à retour tactile, vous manipulez les objets, vous fascinez des formes. L'expérience est complètement dissociée du corps. Alors revenons au réel. En joignant mes mains, comme dit Merleau-Ponty, je réalise l'immersion du touchant dans le touché et l'immersion du touché dans le touchant. Je touche, donc je suis. Je suis un corps sujet. Je suis une chair. Merleau-Ponty dit que le se toucher n'est pas un acte, c'est un être.
À peine le jour s'est levé, à peine la nuit va s'achever, que déjà ta main s'est glissée légère, légère. À peine sortie du sommeil, à peine tu t'éveilles, que déjà tu cherches ma main, que déjà tu frôles mes reins. L'aube blafarde par la fenêtre, l'aube blafarde va disparaître. C'est beau, regarde par la fenêtre, c'est beau, regarde le jour paraître.
Quel étrange plaisir nous avons de toucher pour le plaisir. L'enfant a besoin de toucher son doudou, son foulard, même et surtout s'il a déjà un pouce à sucer. L'enfant est par-dessus tout un tripoteur, un tartouilleur. Et nous aimons la douceur d'un galet poli par les os. Nous aimons mettre les mains dans la maïzena. Nous aimons tourner des billes chinoises dans la paume de nos mains. C'est peut-être parce que nous sommes esprits. Nous n'aimons pas que la matière râpe, s'accroche, poisse. Mais cela peut tourner au fétichisme du toucher, à cette perversion qu'on appelle l'aptophilie. Clérambault, à l'époque où il était psychiatre à l'infirmerie du dépôt, nous parle de cette passion des étoffes, c'est le titre de son livre, à propos de ces femmes internées pour vol de soi, aliénées par un amour de soi. Elles volent pour jouir du contact particulier de la soie. Écoutons l'une d'elles. Le contact de la soie est bien supérieur à la vue, mais le froissement de la soie est encore supérieur. Il vous excite. Aucune jouissance sexuelle n'égale pour moi celle-là. La soie a un froufrou, un cri-cri qui me fait jouir. C'est peut-être que toutes les qualités du contact sont dans la soie. Elle ne marque pas, elle ne frotte pas, elle ne pèse pas, elle froisse à peine. À l'inverse, on peut tomber dans l'allergie au toucher, particulièrement sensible dans la névrose. Le névrosé évite le toucher, il craint la contamination par le toucher. En 1926, Freud définit l'inhibition comme « moyen de soustraire une chose à toute espèce de toucher ». Il interprète le refoulement lui-même comme un refus de laisser certaines pensées se toucher avec d'autres. Ainsi, dans le refoulement, on inhibe à la fois la pensée du toucher et le toucher des pensées entre elles. Ce qu'on comprend là, c'est que l'appréhension du toucher renvoie toujours à l'autre, au désir de l'autre et à la peur de l'autre. À condition, comme ça a été dit tout à l'heure, de distinguer le tabou du toucher, qui est une appréhension névrotique de l'autre, et l'interdit du toucher, qui est une considération éthique de l'autre. Il s'agit dans l'interdit de respecter l'intégrité, de garder l'autre intact dans son intégralité. C'est toute l'ambiguïté des attouchements qui connote aujourd'hui le viol, mais qui connote aussi le prélude, les préliminaires à l'amour. Accorder sa main signifie donner son cœur. Paul Valéry dit que « touche à tout » est le nom de l'amant. La libido se ramène toujours au désir de toucher et d'être touché. Freud interprète même la tumescence, la contractation, dit-il, des organes et de la chair dans l'excitation, comme une volonté de sortir de soi pour rejoindre l'autre. Il dit que Eros veut le toucher, car il aspire à l'union, à la suppression des frontières entre moi et l'objet aimé. Alors Eros n'est pas forcément tendre, il y a des caresses qui blessent, des baisers de Judas. Eros, Platon l'avait déjà dit, est avide, toujours prêt à s'éclater, à posséder, mais qui trop embrasse, mal étreint. Eros, souvent, manque de tact.
Quand on est tout blasé, quand on a tout usé, le vin, l'amour, les cartes, quand on a perdu le vice, des bisques, des crevisses, des rillettes, de la sarthe, quand la vue d'un striptease vous fait dire quelle bêtise, vont-ils trouver autre chose? Il reste encore un truc qui n'est jamais caduc pour voir la vie en rose. Une bonne paire de claques dans la gueule, un bon coup de sabbat dans les fesses, un marron sur les mandibules, ça vous fait une deuxième jeunesse. Une bonne paire de claques dans la gueule, indirect au creux de l'estomac.
On approche assez bien la valeur morale, affective et esthétique du contact en écoutant les métaphores du langage. C'est étourdissant. On dit que la tendresse est touchante, qu'une parole touche juste, que le musicien a bon toucher, que le virtuose touche un max, que le diplomate a du doigté, l'homme généreux a le cœur sur la main, le paria en Inde est un intouchable, la fille prude est une sainte n'y touche, l'importun est collant, il me tanne, le coriace a une peau de vache, la vieille intraitable est une vieille peau. Le médisant égratigne, flétrit mon image. Sa parole est cinglante, glaciale. J'aurai sa peau avant que tout ça ne me coûte la peau des fesses. Les mots, au fond, disent assez bien que le contact requiert du tact. Le laisser aller dans le contact, c'est l'impatience du geste brusque, c'est l'insistance d'une poigne de fer, c'est la violence de la gifle ou du coup. L'excès de contact produit la perte de contact, l'évanouissement. Il provient aussi d'une perte de contact, de celui qui ne se sent plus, de celui qui ne sent plus sa force, de celui qui ne sait pas se tenir, se contenir. La douceur et la délicatesse se jouent d'abord sur le visage et sur les mains. Ce sont les seules parties du corps que le vêtement laisse à découvert. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous sourions, pourquoi la caresse, pourquoi le baiser, pour signifier l'affection? J'ai une hypothèse. Le sourire, qui montre les dents, est une menace de morsure suspendue, retenue. La bise est une aspiration, une absorption interrompue. Et c'est cette interruption que nous entendons claquer. Le baiser expose au risque d'une dévoration mutuelle qui est détournée en caresse. Et la caresse, c'est le sourire de la main. Quand elle est caresse, la main ne se saisit de rien. Toute caresse a les yeux fermés. Elle est douceur, la caresse, parce qu'elle sait qu'appuyer plus ne lui permettra pas de toucher l'intouchable. Noli me tangere, ne me touche pas trop, car la matière ne peut toucher l'immatériel. Le contact, je crois, à l'intouchable pour mesure, toute une dimension d'autrui que je ne toucherai jamais. C'est cette métaphysique du physique qui exacerbe et qui exaspère le désir des amants. Le toucher me met hors de moi et il me garde hors de toi. Ce qu'indique le tact, c'est qu'il nous reste à aimer ce qui ne peut pas se posséder. À condition peut-être de ne pas oublier que l'humanité s'engendre à travers la chair. Un proverbe africain, un proverbe peul, le dit magnifiquement. Voici. La vie vient des mains et elle retourne dans les mains. Un nouveau-né est accueilli par des mains qui le saisissent, qui lui coupent le cordon, des mains qui le lavent, des mains qui lui donnent la vie. Le jour de la mort, c'est encore dans les mains que la vie retourne. Ce sont des mains qui vont enlever les habits, des mains qui vont laver le corps, l'envelopper d'un linge blanc, ce sont des mains qui vont le descendre dans la fosse. Tout homme orgueilleux doit penser à cela. Il ne domine pas sa vie, parce que du début à la fin, sa vie est dans les mains des autres.
Merci Étienne Gruyot, philosophe.